Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, réalisée par Eliane Girard et Frédéric Milano et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, c'est Julien Dumont. La gourmandise ce matin vient d'un article dont le titre affirme ceci. L'aigle harpie est un oiseau si gros que certains pensent que c'est une personne en costume. En le parcourant, on découvre les photos d'un majestueux et gigantesque oiseau ressemblant en effet à un super-héros en costume. Connu sous le nom d'harpie féroce, d'aigle d'Amazonie ou de faucon royal, ce volatile est le plus grand et le plus puissant rapace de la forêt tropicale. On apprend aussi que ce carnivore peut mesurer jusqu'à 1 mètre et atteindre en vol une vitesse de 80 km/h. Sur plusieurs sites, il est indiqué que son cri est mélancolique et délicat, une créature redoutable et merveilleuse en somme, jouissant d'une allure de dandy. Au lycée, notre apothicaire de l'âme pensait que les Stones étaient des usurpateurs et qu'une carrière de rocker l'attendait. En fait, j'étais assez mauvais batteur et mon groupe n'était pas terrible non plus, confesse ce discret perfectionniste qui étudiera finalement au centre de formation des journalistes de Paris et à Sciences Po. Journaliste et reporter pour TF1 et LCI, il passe 10 ans à l'étranger, d'abord comme correspondant à Londres, puis à Washington. En 2011, il est chef des opérations spéciales sur TF1 et depuis 2012, présentateur et rédacteur en chef du journal de 20h, soit le JT le plus regardé de France et d'Europe, voilà pour les superlatifs. Le curieux obsessionnel co-anime également les soirées électorales de la chaîne. Il a d'ailleurs interviewé plusieurs présidents sur différents continents et sera l'un des premiers à nous annoncer le nom de notre prochain chef d'État. L'investigateur nourrit parallèlement une passion pour la course à pied, ce qui rend son intime conviction plus que cohérente. Une vie suffira à peine pour saisir le monde et le parcourir. Bonjour Gilles Boulot.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
Gilles Boulot, quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ?
Oh là là, vous attaquez fort !
Non, en faites pas comme si vous ne vous y attendiez
non,
pas.
Non, si je le savais. Ce que je crois comprendre, c'est que la mélancolie, c'est pas la tristesse.
Ça dépend chacun, sa
Donc,
définition.
Si dans la mélancolie, il y a une petite dose de rêverie, d'envie d'évasion, même si elle se concrétise pas, il y a peut-être... je peux être mélancolique. J'ai pas honte de le dire. Ça peut m'arriver d'être mélancolique et peut-être même de jouir de ce moment de mélancolie. Peut-être.
Ouais, donc une saudade, une mélancolie douce.
Voilà, exactement.
Et vous n'avez pas d'accès de tristesse, d'accès de découragement, justement, en étant confronté aux nouvelles du monde heure par heure ?
Ah si. Et puis en plus, dans mon cas, avec mon métier, mon artisanat, ça se double de culpabilité. C'est-à-dire quand je vais chez mon copain le boulanger ou chez le coiffeur à côté de chez moi, il me dit... Oh là là, Gilles, qu'est-ce que vous nous avez mis encore hier soir là ? Oh là 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 là, vous pourriez pas nous parler d'autre chose ? Donc ils disent, voilà, les gens sont ambivalents, ils ont envie que je leur raconte le monde, y compris la misère du monde, et moi je culpabilise un peu à l'idée de résumer le monde à ce qui marche pas forcément, aux dingos, aux névropathes et aux épidémies.
Mais ça vous affecte ou vous arrivez avec le temps à vous protéger ?
Je crois que je me blinde. Il faut se blinder un petit peu. C'est-à-dire que je n'ai pas de culture médicale, mais je pense qu'un médecin, comme dans les bandes dessinées de Gottlieb, il faut savoir rigoler d'une tumeur. Oh, voilà, sinon, vous êtes pas un bon médecin, vous n'êtes pas un bon chirurgien. Donc un petit peu de recul, peut-être, oui.
Ça dépend comment c'est annoncé, parce que si c'est avec un coussin péteur, on peut mal le prendre aussi.
Voilà. Non, mais oui, il faut un peu de sang-froid et un peu de recul, sinon vous prenez tout sur les pompes, comme disait Coluche à propos de Roger Gickel.
Gilles Boulot, vous avez vécu 10 ans aux États-Unis. Vous dites que l'état d'esprit général est tourné vers l'avenir. Et en comparaison, la France a une vision grise du monde. Dans quelle mesure ça vous affecte, cette différence ?
Ça m'a beaucoup affecté quand je suis revenu en France, après toutes ces années passées en Grande-Bretagne, aux États-Unis. C'est ce que certains, je ne sais pas si c'est des sociologues ou des psys, qui appellent ça les invisibles différences. C'est-à-dire que rien ne ressemble plus à un Américain de la rue qu'un Français de la rue, un Autrichien, un Britannique ou un Suédois. Et en fait, il n'est pas construit pareil. C'est-à-dire que vous parliez d'énergie, je ne sais pas si c'est de l'énergie, mais il y a chez les Américains une forme de foi en l'avenir, de positivisme qui a été instillé par mille et une choses, par l'école, par ce qu'est ce pays et ce que nous ne sommes pas. Et nous avons d'autres qualités. Mais c'est vrai que quand on regarde les classements internationaux qui incluent le Kurdistan irakien, l'Afghanistan et autres pays qui nous font rêver, la France est en queue de peloton pour ce qui est de l'optimisme, de la foi en l'avenir, de la foi en l'homme. Donc ça m'interpelle, oui.
On va essayer de se réjouir avec quelques Français, mais beaucoup d'étrangers aussi dans vos remèdes, Gilles Boulot, puisque vous allez convoquer Claude Lelouch, Groucho Marx, de la curiosité, un astronome, Nabokov, Sinatra, Nougaro et des skis, juste après un titre de la playlist Inter, José González, El Invento.
Curiosa, singular, compleja en su calma y tempestad. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime. Y en el amanecer, cuando todo va a cambiar todo de color y vemos aparecer un mundo lleno de belleza y de dolor. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime, ¿de dónde somos? Dime. Pertenecer a la gente del hilo, pretendiendo entender los enigmas del universo. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime. Somos, dime, dime y dime, ¿por qué será? Dime, ¿en dónde estamos? Dime, ¿por qué?
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Gilles Boulot.
Oh, vous savez, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié.
Ça, c'est joli ce que vous venez de dire.
Eh oui, mais c'est pas de moi.
Ah bon? Et c'est de qui?
Chez le malade Gerloff.
Ah, vous souhaitez.
Vous connaissez pas?
Ah, pas du tout.
Une Suédoise, prix Nobel 1909.
Dites-moi, mais vous vivez constamment avec des... je veux dire, avec des intellectuels?
Ah non, pas avec. Disons à côté.
Mais dites-moi, c'est des marrants, vos petits copains, ça doit dire. Enfin, ils rigolent quand ils se brûlent ou quoi?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Je sais pas, parce que vous dites des trucs, là. Marquez, c'est très joli quand vous parlez.
J'aime bien quand vous m'écoutez aussi. Vous écoutez très bien. C'est rare.
1973, la bonne année de Claude Lelouch, film qui commence d'une terrible façon pour le personnage campé par Lino Ventura. Il sort de prison grâce à une remise de peine pour le réveillon, achète du champagne, rentre chez lui et se rend compte qu'un homme a pris sa place auprès de sa femme. Vous avez choisi, Gilles Boulot, la scène du restaurant entre Lino Ventura et Françoise Fabian. Je vous laisse la remettre en contexte.
D'abord, le film, c'est une pure merveille.
C'est le charme absolu.
Ce film, c'est le charme, la légèreté, merveilleux. Pour la petite histoire... c'est tellement bien joué, c'est tellement du cinéma en liberté que Kubrick, qui était le maître de la monomanie, de la dinguerie, etc., quand il voulait assouplir un peu les articulations de ses acteurs, il leur faisait visionner ce film. Bon, bref, Ventura est un repris de justice, un gangster à l'ancienne, et il essaie de braquer une bijouterie sur la Croisette à Cannes avec un autre pied nickelé qui est son vieux copain Charles Gérard. Ils sont un peu nullos, mais pas tant que ça. Et puis en regardant avec des jumelles 24 heures sur 24 la boutique de bijouterie, il s'aperçoit qu'à côté, il y a une boutique d'antiquaires et que, ma foi, l'antiquaire, eux, est très très belle. Elle est jouée par Françoise Fabian, donc il est un peu perdu, il sait pas trop s'il doit braquer la bijouterie ou séduire ou se laisser séduire par l'antiquaire. On va pas révéler la fin du film, mais les deux se passent un peu. Et donc, ils mangent ensemble. Et lui, est un personnage rustre. C'est un bac moins 5. Et elle est une sorte d'intello, un peu éthéré. Et donc, il y a cette scène du repas. Et c'est le choc des quoi? Le choc des cultures. Le choc du... Et c'est formidable. Et je ne sais pas. J'ai jamais posé la question à Lelouch. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est un peu improvisé? Est-ce qu'il leur a donné un canevas? Je sais pas. Je sais pas.
Et vous pourrez peut-être lui poser la question.
Je lui poserai. Ce film est extraordinaire. J'en ai fait assez la pub ou pas? Ah ouais.
Et oui, et puis il y a des scènes improbables, il y a beaucoup de fantaisie, il y a de la mélancolie, malgré la légèreté chez les trois, puisque Charlos, qui est l'acolyte de Simon, campé par Lino Ventura, se fait lâcher. Simon se fait tromper au début du film, et puis Fabian a une vie intérieure compliquée.
Mais tout n'est que mensonge dans le film, y compris ce qu'est le réel, le passé, le présent, le flashback, parce que le malin Lelouch a tout mélangé, le noir et blanc, la couleur. Mais c'est un film expérimental qu'un gamin de 10 ans peut comprendre et qui peut le faire rire, qui peut l'émouvoir. Il est magique et bon, bah, Lelouch n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Mais il en a fait quelques-uns. Et ça, pour moi, c'est... Voilà. Et je suis pas sûr que le film soit très, très connu. Et Ventura est magnifique. Charles Gérard est dément. Françoise Fabian est sublime.
Oui, vraiment une recommandation qui emporte tous les suffrages dans ce studio.
Ah oui.
Gilles Boulot, votre citation consolatoire pourrait être dans un film de Lelouch, mais elle est de Groucho Marx. « Parti de rien, je suis arrivé à pas grand-chose ». Ce n'est quand même pas comme ça que vous voyez.
Si, sinon je vous en aurais pas parlé. Parti de rien, je suis pas parti de rien. Je suis parti comme tout le monde avec mes valises, avec mon bagage, voilà. Et arrivé pas à grand chose. Ben oui, j'aspirais pas à devenir le roi de Prusse, à devenir milliardaire, omnipotent, à dominer le monde. Et donc là où je suis arrivé me va, me suffit, me remplit.
Et c'est tout de même pas mal.
Oui, mais je fais pas de dédoublement de personnalité. C'est-à-dire je parle pas de moi à la troisième personne ou je me...
Mais ça peut venir.
Ça peut venir avec l'âge. Non, je crois pas. Mais donc ça ne me trouble pas, voilà.
Dans les articles qu'on peut lire sur vous, Gilles Boulot, justement, ce qui ressort, c'est votre humilité, votre capacité à la dérision. Dans quel champ existentiel se situe votre ambition?
Mon ambition, qui n'est jamais satisfaite, c'est d'être heureux. On est tous un peu égoïstes, donc je suis égoïste et un peu égocentré comme beaucoup de gens. Et je chercherai à être heureux, je chercherai à avoir une vie riche, remplie. Et j'essaie de faire en sorte que les gens qui m'entourent soient heureux avec une vie riche et remplie.
Vous vous approchez de ça?
Ben, oui, j'essaie, j'y travaille. C'est un boulot à plein temps.
C'est vrai?
Ouais.
Est-ce que vous avez un rêve pas encore exaucé?
Non, j'ai pas de rêves non encore exaucés. Non, j'essaie de les ceux qui sont à portée de main et à distance réaliste d'un homme, j'essaie de les concrétiser.
Stoïcien,
mais pas moine flagellant.
Non. Pas d'austérité.
Ah non. Je suis un peu
stoïcien, sibarite.
Voilà, plus sibarite qu'anachorète. Voilà.
D'accord. Bon, je crois qu'on a fait le plein de vocabulaire en name dropping. Nous, on name drop des mots.
Non, c'est la même chose. Les moines se divisaient en deux catégories, les sibarites et les anachorètes.
Bien sûr, bah les sibarites c'est les jouisseurs, les anachorètes c'est ceux qui sont isolés dans le désert.
Et voilà, exactement.
Curiosity d'Iggy Pop, pour illustrer l'idée qui vous réjouit, Gilles Boulot, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Vous parlez de la vôtre comme d'une curiosité pathologique et d'une névrose.
Ben oui, parce qu'elle n'est jamais satisfaite.
Mais elle est douloureuse, cette curiosité?
Je ne sais pas si elle est douloureuse, mais comme elle est insatisfaite, je crois que les gens qui m'entourent se demandent parfois si quelque chose peut l'apaiser. Et en même temps, ça me nourrit, j'aime bien. Je suis un élève de troisième et tous les jours, j'ai envie d'apprendre des trucs.
Vous éprouvez une certaine frustration, alors, j'imagine?
Toujours.
Mais plus on en sait, plus on se rend compte aussi de ce qu'on ne saura jamais.
Je ne peux pas dire mieux que vous. Pour moi, la pire torture et le plus grand plaisir, c'est de rentrer dans une belle et grande librairie. Donc je dis, bon allez, là j'ai deux bras, j'ai deux sacs, je vais pouvoir acheter 10, 15, 20 bouquins. Oh non, mais c'est pas possible, tu as vu, il y en a des centaines. Et ceux-là, humainement, tu n'auras pas le temps de les lire. C'est même pas si demain je me cassais les deux jambes et je pouvais passer 8 mois dans un lit à lire. Non, je sais que je n'y arriverai pas. Oh, sentiment de finitude. Et en même temps, vous prenez le premier des livres que vous avez acheté, c'est formidable.
Oui, et en même temps, c'est une raison pour laquelle rester en vie quand on a perdu toutes les autres, voir tous les livres qui nous restent à lire.
Exactement, c'est un aiguillon et une curiosité jamais assouvie.
Vous n'avez jamais eu de regret, Gilles Boulot, après avoir su quelque chose? Justement, le regret du savoir?
Vous pouvez avoir des regrets quand vous êtes déçu par quelqu'un, par exemple, vous êtes trompé sur quelqu'un. Moi, je suis d'un tempérament positif, j'aime bien aimer, j'aime bien admirer un artiste, j'aime bien adorer une chanson que je peux écouter 300 fois. Donc, j'aime pas savoir que le type a plagié ou que cette personne, en fait, était un immonde personnage alors que j'en avais fait quelqu'un d'extraordinaire. J'aime bien admirer. J'adore aimer les talents que j'ai pas. Et comme j'en ai pas beaucoup, voilà, admirer un artiste, un chanteur, le gars qui est seul sur scène, c'est merveilleux.
Y a-t-il des choses que vous n'aimeriez pas savoir?
Oui, l'âge venant. Je ne sais pas pourquoi, je réponds pas à votre question, mais j'y réponds quand même. L'âge venant...
Comme les politiques.
Ouais, exactement. Un peu de langue de bois ne saurait nuire, surtout ici. Non. L'âge venant, je ne supporte plus, comme un gamin de 10 ans, je ne supporte plus les choses ultra-violentes. Les histoires ultra-violentes, les films ultra-violents, les documentaires ultra-violents.
Et le réel ultra-violent.
Le réel ultra-violent, je peux plus. Et même, je crois à la violence symbolique, ça... J'aime pas beaucoup qu'on casse la devanture d'un hôpital, voilà, si vous voyez ce que je veux dire.
Bien sûr. Ouais. Mais vous êtes heurté alors par tout ce dont vous traitez chaque jour?
Oui. On vit, je pense, symboliquement et physiquement dans une période assez violente. Mais tous les contemporains de toutes les périodes précédentes vous auraient dit la même chose. C'était affreusement violent sous Louis XIV et affreusement violent en XIV. Je crois que j'ai développé une sainte horreur de la violence. C'est peut-être vrai. Le buzz, le clash, le truc. Ah mon Dieu. Oh,
bon. Justement, vous dites dans une interview, Gilles Boulot, à 8 ans, je voulais être Tintin. Je viens d'une génération pour qui prendre l'avion était très rare. Est-ce que vous êtes heureux de vivre à notre époque?
Oui, c'est-à-dire que je n'aime pas quand je lis les mémoires de Paul Morand, les gens qui, à 80 ans, âge que je n'ai pas encore, disent « époque affreuse, j'aurais préféré vivre il y a 20 ans ». Et là, quand vous lisez ça sur 3 générations, vous dites « bon, il y a un problème d'adaptation au temps ». Donc, vivons dans notre temps. Si votre question est-ce que j'aime tout de mon époque, non.
Gilles Boulot, j'ai une autre question concernant la curiosité. Vous êtes confronté à l'histoire en train de se faire chaque jour et donc à la pluralité des points de vue et des récits. Pensez-vous qu'une vérité univoque existe?
Oh là, vous posez la question majuscule.
Oui.
Quand vous êtes journaliste et pas homme politique et pas idéologue et un peu névrosé comme je le suis, vous dites, attendez, là-dessus, sur ce fait divers, sur cette histoire, sur cette révolution, sur cette découverte scientifique, c'est noir ou blanc, c'est oui ou non. On l'a trouvé, ce satané vaccin, ou pas? Il est efficace ou il n'est pas efficace? Et ça, c'est mon envie, c'est ma pulsion, essayer de comprendre les choses et d'avoir une réponse univoque. Et puis, depuis que je fais ce métier, depuis pas mal de temps, j'ai appris que c'était presque inatteignable. Et donc, pour avoir suivi des procès en assises pendant des années, vous dites, oh, si j'avais été juré, mais j'aurais été incapable de dire quoi que ce soit, je ne sais pas si ce monsieur est coupable. Et puis, donc, c'est pour ça que je me nourris beaucoup, j'essaie de lire des choses, mais... Il n'y a peut-être pas de vérité univoque. En matière historique, il n'y en a sans doute pas, d'ailleurs.
Croyez-vous facilement aux choses? Parce qu'on lit tout et n'importe quoi maintenant, je veux dire, on peut tout nous faire croire.
Oui, mais moi, je suis pas crédule, mais je crois qu'il y a des métiers qui sont bien exercés. Je pense, par exemple, que les journalistes, je ne dis pas ça de manière pour défendre ma boutique, mais je trouve que les journalistes, en France, par exemple, la presse écrite, elle fait vachement bien son métier. C'est-à-dire que si je lis le matin Le Figaro, Libé, et puis après l'après-midi Le Monde et entre-temps Le Parisien, bah quand même, enfin ce que je lis est étayé, ce que je lis était le fruit d'un travail. Je dis souvent ça aux jeunes journalistes, mais lisez la presse écrite, elle est très bien faite. Coupez votre téléphone portable, arrêtez le site de Trucmuche et de machin. Les journalistes sont humains, ils sont faillibles, mais tous ceux que je connais, de toutes obédiences, de toutes couleurs politiques, sont honnêtes intellectuellement. Oui, moi je me trompe, vous vous trompez sans doute, mais si je me trompe, c'est en toute bonne foi, et j'essaie de me corriger. Et je trouve que la presse est bien faite, donc oui, je crois à la presse.
Alors lisons la presse.
Ah oui.
Oui.
Écoutons la radio, regardons la télé.
Mais oui, écoutons la radio. Bon, la télé, oui, oui, parfois, parfois. Alors, il y a un titre de la playlist France Inter qui nous sépare d'un tableau de Vermeer. Rendez-vous juste après Rue Saint-Louis en Lille, chanté par Benjamin Biolay et Juliette Armanet.
Une chanson qui sent bon le chagrin, pour te dire combien je suis seul, pour te dire combien je suis las. Un couplet aux airs, de faux refrains, pour dire combien la vie est laide, oui, combien elle est dégueulasse. Une chanson qui frise la complainte, pour te dire que la pluie est triste, pour te dire que la neige est crade. Que la lumière n'est que demi-teinte, que j'ai l'air d'un équilibriste, plus que d'un avaleur de sabre. Je me souviens de ton dos, de Saint-Louis en Lille, puis rien, de rien, plus un mot. Un bâton de cire. Je me souviens une chanson qui sent bon le chagrin, te dire que j'ai un chat persan qui se niche au fond de ma gorge. Un couplet aux airs, des faux refrains qui sent ni la sueur ni le sang, pareil au chant du rouge-gorge. Une chanson qui jouxte mes prières, pour te dire que je me sens vide, pour te dire que je suis une épave. Et que je ne vois même plus la lumière, mais dans le loin des pyramides, pardonne-moi, je sors du cœur.
Sur France Inter, toujours en compagnie de Gilles Boulot. J'avais promis qu'on parlerait du grand peintre baroque néerlandais Vermeer, dont seule une trentaine de tableaux nous sont parvenus. Vous avez choisi l'Astronome, réalisé en 1668 et conservé au Louvre. C'est l'un des rares tableaux du maître à comporter une date et à mettre en scène un personnage masculin seul.
Il y en a très peu. Bah, d'abord, il a très peu peint. Et puis ce tableau-là, moi j'ai été choqué parce que lorsque j'ai découvert les Vermeer, je les avais vus dans les livres, etc. C'est tout petit, ce sont des miniatures, ils font 50 cm, donc il faut s'approcher, ce qui est difficile d'ailleurs. Et alors il y a une obsession du détail qui est proprement incroyable. Et ce tableau-là, c'est un tableau, il y a plein de pièges, il y a plein de choses trappes, plein de pistes qui vous mènent nulle part, on ne sait pas quoi regarder. Le visage, mais c'est incroyablement moderne. Il a les cheveux longs, il est pas vraiment, on sait pas s'il est rasé, il a une sorte de grande chasuble. Donc c'est un bourgeois, un astronome. Est-ce qu'il est hors la vie? Est-ce que c'était un gars dans sa cave là, ou dans son bureau? Puis il y a la lumière qui vient, mais le tableau est bizarrement encadré parce que la fenêtre est coupée en deux. Donc c'est comme si Vermeer s'était trompé. Évidemment, il s'est pas trompé. Et puis il y a un tableau au fond à droite, mais de qui? Il est de Vermeer? Pas vraiment, etc.
C'est Moïse sauvé des eaux.
Il y a des bouquins, il y a des trucs, et lui il tient son globe terrestre. On dit mais qu'est-ce qui l'intéresse? Il regarde le globe, il regarde un peu derrière, il regarde devant. À quoi il pense? À quoi il pense? Est-ce qu'il vient de faire une trouvaille? Et en se disant oh, bon sang, mais c'est bien sûr, comme dirait Raymond Souplex. Est-ce que il pense à autre chose? Ah, il est c'est un tableau sans solution et qu'un enfant peut comprendre et admirer tellement c'est bien fait.
Il y a une sérénité aussi dans la beauté qui émane du tableau.
Voilà. Et on peut penser, c'est la projection que j'ai faite, qu'il a acquis une forme de savoir, qu'il veut acquérir une forme de savoir, cet astronome, et qu'il s'en réjouit, et qu'il en est heureux. Et que malgré tout, parce qu'il est un peu dépenaillé, les cheveux pas coiffés, qu'il se fout un peu de son apparence, et que c'est sa curiosité qui le guide.
Vous vous identifiez un peu à lui, Gilles Boulot?
Alors, capillairement parlant, je peux plus. J'ai plus les moyens.
Mais en curiosité, oui.
En termes de culture scientifique, non plus. C'est pas mon fort. Mais ouais, en curiosité, oui. S'oublier dans la curiosité.
C'est en 1940 que je quittais l'Europe pour me rendre en Amérique et y devenir professeur de littérature russe. Tout à coup, je me découvre une incapacité totale de parler en public, mais totale. Donc, je décidais d'écrire d'avance une bonne centaine de conférences sur la littérature russe, et ça fait 2000 pages dactylographiées. Je récitais trois fois par semaine, les ayant arrangés dans une position pas trop évidente. Et grâce à ce procédé, je ne m'embrouillais jamais, et l'auditoire recevait le produit pur de mon savoir.
L'écrivain Vladimir Nabokov, interviewé par Bernard Pivot dans Apostrophe en 1975. Enfin, je dis interviewé, mais en vérité, il lit les fiches qu'il a préparées à l'avance, puisque Pivot avait exceptionnellement accepté de lui envoyer les questions, ce qu'il ne faisait pour aucun autre invité. Gilles Boulot, vous avez choisi son second roman publié en 1928, roman loin d'être parmi les plus connus. Mais juste avant que j'en dévoile le titre, un petit mot sur cette émission mythique qu'on vient d'entendre.
Bon, on en a tous discuté avec Pivot. Il dit pas c'est une défaite, mais voilà, pour la seule fois dans Apostrophe, j'ai accepté qu'un écrivain vienne avec ses bristoles, avec les réponses toutes écrites. Donc c'est parce que Pivot était, j'imagine comme moi, éperdu d'admiration pour Nabokov. Et l'autre grande tromperie, évidemment, pour ceux qui ont la chance, peut-être que dans Alina, on peut voir encore cette interview, c'est qu'il y a une sorte de petite muraille de Chine. Là, il y a une petite muraille avec des bouquins, des trucs qui cachent une soi-disant théière et un soi-disant gobelet. Et en fait, il y a du whisky, 20 ans d'âge là-dedans, et Pivot passe son temps à dire « Monsieur Nabokov, vous reprendrez bien un petit peu de thé ?» Et Pivot lui en remet un petit truc, et Nabokov prend son truc. Et c'est génial, parce qu'il parle un français d'une pureté incroyable, avec cet accent que l'on sent lointainement russe.
Vous avez choisi son livre « Roi, Dame, Valet ». C'est un délice, ce livre. Comment vous l'avez découvert, Gilles Boulot? Vous vous souvenez de la première lecture?
Oui, enfin déjà je me souviens de mon premier choc en lisant Nabokov, c'est juste incroyable, j'avais jamais rien lu de tel, et après, pendant des années, j'ai le sentiment d'avoir lu que Nabokov, c'est-à-dire que tous ses romans, toutes ses nouvelles, toutes ses correspondances, en français, en anglais, voilà, je suis devenu un monomaniaque de Nabokov par pur plaisir, c'est-à-dire que chaque fois que vous lisez quelque chose, il met... Comment il a eu cette image? Comment a-t-il pu avoir cette mémoire visuelle? Et comment a-t-il pu restituer ça?
C'est débordant d'inventivité.
C'est merveilleux. Et ça, c'est un
drôle,
roman qu'on dit, pas mineur, mais moins connu. Il a 28 ans quand il écrit ça. Et c'est extraordinaire.
Parce que le sujet est somme toute assez banal. Il s'agit d'un adultère. Mais Nabokov pourrait s'emparer du sujet le plus ennuyeux qui existe et le rendre absolument fascinant. Il y a une élégance, une drôlerie, des trouvailles, de l'inventivité à chaque ligne.
Ce que je vous conseille, si vous voulez même pas acheter, vous allez dans une librairie et vous prenez la première page du livre, c'est rien. C'est un train qui démarre dans une gare. Ça prend une page. La description est incroyable. Parce que, avec Nabokov, ce qui est fou, c'est qu'on sait jamais ce qui est réel, ce qui est imaginaire, ce qui est une manipulation de sa part, ou une restitution fidèle de nos moments d'incertitude. Quand on est ivre, quand on rêve, quand on est semi-éveillé, quand on va mourir, quand on... Voilà. Et donc, il mêle tout ça. C'est une texture très compliquée, une tapisserie très compliquée, et en même temps très abordable et très jouissive. Qu'est-ce que c'est drôle ! Qu'est-ce que c'est drôle !
C'est très très drôle, parce qu'on est dans la tête de tous les personnages Gilles Boulot, dont Roi Dame Valet. Est-ce que vous auriez un passage à nous lire ?
Oui, alors il y en a plein. Je vais vous tout vous lire. Ça fait 260.
Oui,
non, ça va être trop long.
Non, pas 268 du tout.
268 pages.
Pas du tout.
Je vous en lis un petit morceau. Juste un élément. Donc il y a le mari, sa femme.
Alors le mari et, Dreyer, sa femme.
Voilà,
Martha.
Sa femme s'appelle Martha et l'amant ou le futur amant qui s'appelle Franz. Et donc le mari va embaucher dans son.
C'est un provincial qui débarque
voilà,
à Berlin.
Voilà. Et le mari est un grand bourgeois de Berlin, très bien habillé, mais assez sympathique d'ailleurs le mari. Oui. Et il va embaucher l'amant de sa femme sans savoir que c'est son amant. Et ça commence par des agapes, par une bouffe un dimanche à la maison, dans cette grande maison bourgeoise à Berlin, et il commence par faire picoler l'amant de sa femme, dont il ne sait pas que c'est l'amant, et l'amant est à jeun. Et donc c'est juste une description de voilà, qu'est-ce que c'est que d'être de l'ivresse, ça dure quelques secondes. Alors le mari s'appelle Dreyer, hein, je vous rappelle, voilà. Dreyer lui reversa du vin et Franz, l'amant, c'est moi qui rajoute, et Franz, qui n'avait pas pris de petit déjeuner et n'avait pas osé toucher à l'énigmatique entrée, eut l'impression que ses extrémités inférieures étaient maintenant complètement dissoutes. Deux fois, il prit l'avant-bras nu de la bonne pour celui de Marthe. Mais ensuite, il se rendit compte que celle-ci était assise loin de lui, fantôme couleur de vin doré. Dreyer, également fantomatique, mais animé, et le teint vermeil, décrivait un voyage en avion qu'il avait fait 2 ou 3 ans plus tôt entre Munich et Vienne par mauvais temps. Il disait comment l'avion avait été ballotté et secoué, et comment il avait été sur le point de dire au pilote « Arrêtez un moment !» et comment son compagnon de voyage occasionnel, un vieil anglais, n'avait pas cessé de faire tranquillement des mots croisés. Pendant ce temps, Franz fut aux prises avec les terribles problèmes que posèrent le vol au vent et ensuite le dessert. Il avait le sentiment que d'une minute à l'autre, son corps allait se liquéfier, ne laissant que sa tête, qui, la bouche pleine de choux à la crème, allait se mettre à flotter à travers la pièce comme un ballon de baudruche. Le café et le curaçao faillirent l'achever. Pff, voilà, il est ivre, il est pompette. Et c'est Nabokov qui vous raconte ça. Mais après, il peut vous raconter le départ d'un train, des feuilles dans une flaque d'eau, l'hiver qui arrive.
Il peut tout vous raconter.
La débâcle de la Moskova au mois d'avril.
Il y a même un chien qui saute sur une balle et ça devient fantastique. Un spectre de chien qui se dissout dans l'atmosphère. C'est magnifique.
Et en même temps, c'est vous, quand vous vous réveillez le matin, que vous avez l'esprit confus. C'est vous qui avez bu un verre de trop. C'est vous qui êtes dans cet état entre le rêve et la réalité. Et comment a-t-il pu vivre ça, Nabokov, le noter quelque part dans son esprit et le restituer et le rendre accessible à moi, simple lecteur. C'est pour ça que c'est un des plus extraordinaires auteurs que je connaisse.
The Sands is proud to present a wonderful new show, A Man and His Music. The music of Count Basie and his great band... And the man is Frank Sinatra.
How did all these people get in my room? Come fly with me, we'll fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll fly away. Come fly with me, we'll float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, we'll float down in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you might hear all the angels cheer.
here because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say those words, we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they say. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly, we'll fly. I get you up there where the air is so rarefied. We're gonna glide absolutely petrified. Once I get you up there, I'll be holding you so awfully near. You might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weather-wise, it's such a groovy day. Just say that word and I'll beat your bird down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, and they do say. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly. Pack up, let's fly away. And don't tell your papa.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Gilles Boulot qui vient de nous faire entendre son premier antidote musical Come Fly With Me par Frank Sinatra, live de 1966 au Sands Hotel and Casino, orchestre dirigé par Quincy Jones. Le morceau est sorti en 58, il est composé pour Sinatra par Jimmy Van Heusen avec des paroles de Sammy Cahn. Alors Sinatra qui fréquentait la mafia et les présidents comme les journalistes.
Oui, alors la mafia, j'en ai fréquenté quelques-uns, des membres de la mafia, des présidents aussi. Mais c'était aussi Sinatra, un grand avocat de la cause des Noirs américains. Beaucoup, il s'est beaucoup battu pour que Sammy Davis ait des vrais contrats, pour qu'il puisse travailler au même tarif que les Blancs. C'est une très noble bataille dont le bonhomme est ambigu, mais sur l'essentiel. Si on excuse ses amitiés pour Sam Giancana et quelques membres de la mafia de Chicago, c'était un mec. Puis bon, quel talent, quelle voix, quel rythme, quel swing.
Et ce morceau, ce live en particulier, Gilles Boulot?
J'adore parce que j'avais un père qui était un fou de jazz, qui m'a élevé dans l'amour du jazz. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 25 ou 30 ans, il y a plein de vieux jazzman américains qui ont continué, malgré la mort de Count Basie, qui s'appelait les Countsmen, et qui tournaient en Europe. Et donc, à Paris, vous pouviez entendre ces musiciens qui sont avec Sinatra, Freddie Green, etc., tous ces gens-là, qui jouaient, et c'est irrésistible. On parlait de mélancolie. Vous êtes là, vous ne pouvez pas rester sur votre siège. Il y a un swing, il y a une énergie vitale extraordinaire. Et dans ce disque de 66, donc c'est Count Basie, produit et dirigé par Quincy Jones et Sinatra, tout est bien. Sinatra, il est toujours un petit peu pompette, on sait pas trop, mais il en joue beaucoup, donc il y a une introduction par le speaker, et la foule se lève, et Sinatra feint un peu d'être ivre et dire, mais c'est qui tous ces gens dans ma chambre, là? Et hop! Et il attaque, et il rate pas un tempo, c'est génial.
On reste aux États-Unis. New York, écrit par Claude Nougaro, installé dans la capitale américaine en 10 minutes. Il l'a écrit en 10 minutes. Mmh. C'est toujours très agaçant, les histoires comme ça. Nougaro, qui était journaliste aussi pour divers quotidiens.
Ouais, il était un peu. Nougaro, c'est l'amoureux absolu des mots et de la musique des mots. Mais j'adore Nougaro. C'est-à-dire que même une chanson obscure de Nougaro, vous dire Oh la vache, il a trouvé cette rime. En fait, il prend le dictionnaire de rimes, puis il s'assoit dessus, quoi. Il traficote les rimes. Et là, dans Nouga York, il y a tout ça. Il y a du français, il y a de l'anglais, il y a des rimes. On dit, non, il a pas osé faire cette rime-là. Avec Nouga York, avec Jambon Dior, come on! Et il le fait! Et puis, c'est magnifiquement produit. Et à cette époque-là, il est quasiment mort, commercialement, Nougaro. 87, 88, on lui rend son contrat. Il perd de l'argent, c'est un has-been. Il part, il rencontre Nile Rodgers, tous ces gens-là, et il fait ce titre, mais qui est énorme. Ça fait exploser les enceintes. C'est génial, ce disque de Nougaro. Cette chanson en particulier, elle est démente.
Cette chanson décrit son choc à son arrivée à New York. Vous, Gilles Boulot, vous vous souvenez de votre arrivée à Washington ?
Ah ouais. En fait, j'y suis allé deux fois. J'ai vécu un an en 90-91, et ensuite 6 ans dans les années 2000-2010. Ah ouais, mon arrivée, c'était... Mais c'est pas ça. L'arrivée à Washington était incroyable. Mais Washington, c'est une petite ville de 600 000 habitants, très bien, très intéressante. Mais en revanche, mon arrivée à New York, qui était quelques semaines après, je me souviens, je suis arrivé le soir en avion de Washington et j'ai pas voulu me promener le soir. Je suis enfermé dans ma chambre d'hôtel qui donnait sur Central Park. J'ai dit, mon gars, demain, tu vas te lever et tu vas te découvrir avec un esprit... totalement vierge, totalement ouvert. Et c'est un des grands chocs de ma vie. J'adore cette ville, j'adore l'énergie de cette ville, les 70 nationalités. Votre chauffeur de taxi, il est érythréen, vous en changez, il est d'un autre pays, après il est du Salvador, après. Et tout ça parle une sorte d'anglais. Et le point commun, c'est une langue qu'ils ont façonnée, qui est une sorte d'anglais, c'est le point commun.
Alors, descente en traversée, les deux skis serrés parallèles, légèrement en travers de la pente. Le ski amont, légèrement en avant par rapport au ski aval. Le poids du corps est parti deux tiers aval, un tiers amont. Les chevilles légèrement fléchies, les genoux pliés, n'est-ce pas? Et le corps dans l'axe des skis. Vous tenez les bâtons fermes dans la main, n'est-ce pas? Les bras dégagés du corps, la pointe des bâtons dirigée vers l'arrière.
Vous voyez que c'est d'une extrême simplicité. Il suffit de penser à ses skis, il suffit de penser à avoir les pieds parallèles. Il faut penser qu'il y en a un qui doit être un tout petit peu en avant, le ski amont. Il faut penser à avoir les mains fermes, avoir les bras dégagés. En somme, tout ça, c'est très simple.
Cours de ski première étoile dans Panorama, diffusé en 1952 sur la RTF. Gilles Boulot, le ski est l'une de vos activités anti-spleen. Alors, j'ai envie de savoir si vous le pratiquez depuis longtemps, mais je suis très étonnée que vous n'ayez pas mentionné la course à pied alors que c'est votre obsession.
Oui, c'est deux monomanies. J'adore la course à pied. Ça me meut. C'est un moteur.
Vous faites 8 épreuves de fond tous les ans, à peu près.
Pas mal. Alors, cette année, c'est mal barré, hein. 2020-2021.
Oui,
mais c'est un peu, mais voilà. Ouais, j'en fais beaucoup. J'aime beaucoup courir. Et le ski, c'est totalement l'autre bout du spectre. C'est un autre plaisir. C'est un sport de glisse comme la planche à voile, comme les jeunes qui font du skateboard. C'est un sport de glisse dans un univers silencieux et ample. Et nous, on vit dans des villes plutôt bruyantes.
Et étriquées.
Mon horizon toute la journée, le vôtre peut-être, c'est un mur d'un studio, d'un bureau à 2 ou 3 mètres. Et puis le soir, après une journée de ski, vous dites, mais c'est bizarre, mon œil n'a jamais porté à moins de 3 ou 5 kilomètres. Toute la journée, vous êtes là. Et puis vous êtes comme dans un film. Vous vous promenez, vous glissez. Les bruits sont amortis comme dans du coton. Et puis vous avez chaud partout, froid au bout du nez, c'est génial.
Est-ce que vous êtes myope, Gilles Boulot ?
Ah oui, je suis très myope.
Oui, parce que moi aussi, je pense que beaucoup de journalistes sont myopes à force de lire tout le temps et de se concentrer justement sur des petites distances.
Mais je l'étais avant, hein. Oui. J'étais miro avant, oui.
Oui, mais il paraît que les bergers, par exemple, à force de regarder très loin justement dans l'horizon, ont une très bonne vue.
Mais bien sûr, c'est pour ça que les petits-enfants sud-coréens, qui sont ceux qui lisent le plus, qui travaillent le plus, sont tous, à 90%, paraît-il, myopes. Ils ne sont pas nés myopes, mais la myopie naît du fait que vous n'accommodez jamais à plus de 40 cm.
Bon, tentons de nous réjouir tout de même. Gilles Boulot, votre dernier remède, vous qui vous levez tous les jours à 6h15, c'est ça?
Un peu plus tard, non, un peu plus tard. Ah, je m'éveille, mais je me lève en tant que bipède un peu plus tard que ça.
D'accord. Le soleil levant, quel est le plus beau lever de soleil auquel vous ayez assisté? Vous y faites attention tous les jours?
Pas tous les jours, mais c'est quelque chose non seulement dont je ne me lasse pas, mais avec le temps... c'est quelque chose qui me touche de plus en plus, la beauté de la Terre. Je pense qu'on y est peut-être plus sensible à mon âge qu'à 20 ans, où on pense que c'est acquis, que c'est éternel. J'ai cru comprendre que ça l'était pas tout à fait. Je ne suis pas éternel, ça c'est un fait acquis, mais même la fragilité de la Terre. Donc je suis pas un écolo de la 25e heure, mais j'ai adoré la nature. Un des plus beaux levers de soleil, un des plus beaux couchers de soleil, c'est Monument Valley. c'est le lieu de tournage des films de John Ford. C'est ces grandes cheminées ocre. Voilà. Et cette... Vous parliez de course à pied, là, pour avoir couru là-bas. C'est extraordinaire. La vie est en orange. Toutes les gammes d'orange. Et avec l'odeur du bois brûlé que brûlent les Indiens, qui est un bois assez odoriférant, qui ressemble un peu à l'eucalyptus. Et vous êtes baigné là-dedans dans une sorte de rêverie. Et vous avez ces grandes cheminées et vous voyez presque John Wayne sortir au loin. C'est magnifique. Parce que c'est un monde dans le monde. Monument Valley, c'est pas immense. Ça fait 25 ou 30 kilomètres de long. Et vous êtes à l'écart du monde. C'est comme sur une autre planète. Une planète bienveillante, harmonieuse, et vous avez un cavalier qui est à gauche dans le silence, et quelques très rares animaux, une végétation assez maigrichonne aussi. Et c'est pas un monde hostile, c'est merveilleux, Monument Valley.
Ça a l'air absolument magnifique ce que
et
vous
décrivez. Et en ballon, je l'ai fait en ballon, en montgolfière, le soleil qui se lève, c'est inimaginable. La Terre est d'une beauté incroyable.
Et alors, terminons sur cette idée, sur la Terre est une beauté à couper le souffle. Il y a tant de choses à découvrir et à regarder.
Il y a tout.
Même là, tout de suite, il y a tant de choses à regarder.
Mais oui, selon que vous soyez croyant ou pas, il se trouve que je ne le suis pas, mais ça n'enlève rien à mon émerveillement.
Mais on peut croire à la beauté.
Et à la beauté, même si je ne suis pas croyant, miraculeuse de la Terre. C'est une sorte de hasard et de nécessité qui fait qu'on ait le privilège insigne de vivre sur cette Terre qui est juste incroyable. Et quand j'étais petit, je voulais faire tous les pays, visiter tous les pays, j'y suis presque arrivé. Voilà un bon remède à la mélancolie. Mettre une petite aiguille rouge, ou jaune, ou verte, comme vous voulez, sur tous les pays du monde. Il m'en reste encore. Mais ça, voilà un accomplissement dans une vie d'homme.
Moi, j'ai fait toutes les stations de métro d'Île-de-France. Merci
oui,
beaucoup.
J'ai fait Bonne Nouvelle. C'était bien contre la mélancolie. Ça suffit
non,
pas.
Non, ça sent le salsifis à Bonne Nouvelle. Merci beaucoup, Gilles Boulot, d'être venu dans cette émission. On vous retrouve tous les soirs de la semaine à 20h dans le JT de TF1. Et je me dois de signaler aussi que notre confrère sur la chaîne, Guillaume Meurice, sort un livre chez Lattès, Le Roi n'avait pas ri sur l'ascension et la chute de Triboulet, bouffon du roi au XVIe siècle. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes évoqués sont sur le site de l'émission. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. J'espère que votre âme a autant de vitalité qu'une insurrection de carottes indignées. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.